Bonjour et bienvenue dans Histoire, Histoire. Une émission qui vous embarque de l'arise à la laise à la découverte de l'histoire et des légendes du Volvestre. Entre l'histoire attestée, la certifiée qu'on trouve dans les livres savants et les histoires que l'on raconte les nuits d'hiver quand les pierres fendent leurs secrets, je vous invite à une balade contée, bonne à bouleverser nos savoirs et à enchanter nos regards. Histoire, Histoire. Un podcast proposé et soutenu par l'Office du Tourisme et la communauté de communes du Volvestre. Pour vous qui écoutez, c'est un lundi, un mardi, un mercredi peut-être? Eh bien non. Aujourd'hui, dans cette émission qui abolit les frontières du temps, nous sommes bel et bien un dimanche, et plus encore, un dimanche matin. Mais levez-vous, vite, sortez du lit, c'est jour de marché à Montbrun-Bocage, il ne faudrait pas le manquer. Dommage que le taco du Volvestre, ce vieux tramway vapeur en service entre 1907 et 1938, n'officie plus. Partant de Carbonne, il nous aurait déposé à la gare de Domazan par le train de 8h17 et nous aurions fait les kilomètres restants à pied. Mais bon, on prendra le vélo. J'entends déjà Maïna, cette pré-ado de 10 ans, grogner sous sa couette comme un ours qu'on réveille.
Mais de toute façon, c'est dimanche et je vais encore dormir et ras-le-bol des matins mission et gna gna gna, mais laissez-moi.
Mais voilà qu'en arrivant, la grogne de Maïna cesse soudain. Elle est émerveillée. Un marché alternatif comme celui-là, elle n'en a encore jamais vu. On dirait bien qu'ici, toutes les époques se croisent, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Entre les New Agers de pied en cap, feutre bouilli sur bottes fourrées, les bobos techno en Harley, ou les néo-ruraux pacifistes à vélo électrique, il y a le vendeur de tambours, qui teste ses peaux à mesure qu'elles sèchent au soleil. Venu du Guatemala, une odeur de café circule entre les étals. Les nationalités et les langues se mêlent. Brésil pour les glaces, Argentine pour les empanadas et les grillades, Maurice pour les gousses fraîches de vanille. Les migrateurs d'Europe et d'ailleurs sont là, eux aussi. Des oiseaux libres, fidèles au poste, qu'ils soient vendeurs ou clients. Ils rentrent tout juste d'Espagne ou du Maroc, ou, au contraire, sont installés de longue date. Maraîchers allemands, épiciers anglais, des figures bien connues dans cette faune locale. Éclectiques et colorées, les stands défilent sous les yeux surpris de Maïna. Sculpteur sur bois en kilt et sabots, écrivain public voyageur à l'allure chamane défiant les règles du jeu de la vie, un facteur d'hydrolat et d'élixir essentiel, une magicienne experte esplante, orfèvre des tisanes, un maître vanier peu loquace, un paysan boulanger, une éleveuse de brebis faisant fromage, un musicien libanais et artiste culinaire qui rassasie autant les oreilles que le ventre, les talents se croisent et se multiplient, divers et variés, où Maïna découvre qu'on peut vivre et travailler sans appartenir à un seul métier. Rassembleur d'époque, il plane en ce marché, d'abord associatif, l'esprit d'une décroissance avant-gardiste qui fait du bien, l'idéal d'un avenir possible où l'homme se réconcilie avec la nature, avec sa nature, dans une intelligence commune aux couleurs vives. Tout juste rentré de tournée, un magicien aux allures de fakir des mille et une nuits épate son public sous les platanes. Maïna se demande comment tiennent ses trois globes sur sa tête. Comment flottent ses pièces dans les airs, alors qu'il tient l'équilibre sur ses bras fermes et fins de yogi. On raconte qu'une image vaut mille mots. Alors pensez donc, une visite, un beau jour de marché à Montbrun-Bocage vous laissera mille impressions. Et si ce n'est le fakir magicien qui tient la place, des musiciens locaux vous accueilleront. Musicienne trad occitane ou folke baladin au regard généreux. Est-ce que j'idéalise? Peut-être pas tant que ça. Et de toute façon, c'est à peine si Maïna a remarqué les vieux punks alcoolisés ou respiré les vapeurs du chanvre local et biosourcé. Pendant que ses parents achètent leurs légumes cultivés en traction animale, Maïna s'éloigne un peu. Elle a vu qu'au-delà du ruisseau, les ruines d'un grand château dominent le village. Un petit pont empierré permet d'y accéder. Au-dessous, des enfants jouent, les pieds dans l'eau, invitant Maïna à en faire de même. Avec cette chaleur, et après le vélo, pas besoin de la prier. Mais alors qu'elle remonte le courant, sautant d'une pierre à l'autre, observant les petites moules d'eau douce qu'on appelle naïades, elle remarque sous la pile du pont, fichée dans le roc, une petite pierre à la forme et aux couleurs détonnantes. Est-ce la dernière crue d'orage qu'il y aura charriée? Elle est toute polie, étirée comme une goutte d'eau qui s'effile. La pierre s'aplanit en corolle dans sa partie haute avec une sorte de petite pointe qui chapeaute le sommet. On dirait une toupie. Moins grande que la paume de main de Maïna, elle passe du vert d'eau au vert sombre, zébré par endroits selon qu'elle l'éclaire différemment. Le plus curieux, c'est qu'en l'observant du dessus, à un endroit où elle semble translucide, on peut croire qu'elle brille de l'intérieur, d'une lumière étrange et claire qui rappelle à Maïna celle de la pleine lune. Comme un jet des chaînes scrupuleux, Maïna sort de l'eau et emporte son trésor en lieu sûr en direction du château. Sur le chemin, un immense chêne dont les racines décaissées de leur terre forment un abri semble l'attendre. On l'appelle l'arbre éléphant. Et c'est vrai qu'on y est bien sous ses grandes pattes. Assise en tailleur, Maïna sort sa trouvaille. Une curiosité de la nature? Pas sûr. Un gadget de gogo? Encore moins. Un objet déco? Pas évident. Est-ce ancien? Est-ce récent? Est-ce même fait par l'homme? Elle ne sait. Mais après tout, on dirait bien une toupie. Et sur une pierre plate, Maïna s'y essaye. À peine l'a-t-elle lancée, la toupie s'immobilise à la verticale, comme foudroyée. Ce que Maïna n'avait pas prévu, c'est que c'est le monde tout autour qui se met à tourner. Maïna s'affole, son regard se perd. Le vert des arbres, le brun de la terre et des troncs, le bleu du ciel s'étire en de longues bandes horizontales, se fondent dans un manège effrayant tandis que la toupie brille intensément, inexorablement fixe. Ses yeux se ferment. Vous pensez bien, en les ouvrant, c'est un tout autre décor qui lui apparaît. Elle reconnaît les lieux, mais le château, loin d'une ruine, dresse fièrement ses tours au vent sur une longue motte défrichée. Sur la colline, les sapins bruns, qui ont sans doute donné au lieu son nom de Montbrun, à moins que ce ne fût Bruno, un ancien soldat romain ayant reçu cette terre, sont innombrables. La ville est plus petite, mais il reste les halles, l'église, les maisons à pans de bois. Sur la place, des hommes en armes, casques et hallebardes, escortés d'un cheptel bêlant. Elle a beau se frotter le visage, Maïna sait bien que ce n'est pas une reconstitution du village gaulois voisin. Elle n'a pas le temps d'avoir peur qu'une trompe résonne au château. La herse s'ouvre. Une cohorte s'avance, avec à sa tête une femme. Anglésie de Montagu. Derrière elle, un convoi funèbre. Le père d'Anglésie, qui lui a laissé les rênes de la seigneurie. Nous sommes en 1280, et c'est par cette femme exceptionnelle, autrice de la Charte des Coutumes de Montbrun, soi-disant écrite par son mari, Guérin d'Amploputéo, qu'on en sait plus sur la vie médiévale de la ville. Rédigée dans la langue de Montbrun, un occitan à la croisée du gascon et du languedocien qui survit encore aujourd'hui, parce que vous comprenez, à Domazan, ils disent comme si, alors qu'à Montbrun, nous disons comme ça. On y apprend que les habitants possèdent des jardins, des vignes, des vergers. Qu'on organise des contraintes collectives, comme les vendanges, les moissons, que les amendes sont payées en monnaie de Toulouse et que, pour appliquer sa loi seigneuriale, Anglésie et ses successeurs devaient nommer chaque année un bail et 4 consuls parmi le peuple. Maïna, inquiète d'être découverte, relance aussitôt la toupie. Le monde tourne, ses yeux se ferment. Lorsqu'elle les rouvre, c'est une troupe de cavaliers qu'elle voit passer. Sur le château, des tentures noires rappellent la mort toute proche du second mari d'Anglésie, Thibaut de Lévis. Nous sommes en 1309 et ces cavaliers filent à vive allure vers Paris, vers le roi Philippe le Bel afin de remettre une lettre cachetée attestant qu'Anglésie place sous la protection du roi de France toutes ses possessions et celles de la famille Montagu. Ce faisant, Anglésie se libère des comminges et des comtes de foi qui, au gré des siècles, se partageaient la propriété de l'endroit. Et même, en 1315, elle osera désavouer les hommages rendus aux comtes de foi pour prétendre que cela fait, quoi, une centaine d'années qu'elle relève des comtes de Toulouse. Plus tard, ses enfants, les bien nommés Thibaut II, Gaillarde et Anglésie II, reprendront le flambeau pour un destin brillant. On se figure que Montbrun est un petit village isolé du fond de la Haute-Garonne. Mais que penser lorsque Maïna voit, aux côtés de Thibaut II, son oncle et précepteur Pierre de Lévis, évêque de Combray? À cette époque, cela voulait dire régner sur la vie ecclésiastique d'une zone allant de Dijon à Anvers en passant par Namur. Ou encore, apprendre que le Thibaut II adulte, baron de Montbrun, sera lui-même, après que les relations avec le comté de Foix fussent redorées, tuteur du bien célèbre prince et poète Gaston Phébus, comte de Foix et seigneur du Béarn. Les cavaliers passés, Maïna veut en savoir plus. Elle ravive la magie, relance la toupie et traverse les âges. Jusqu'à cette nuit sans lune où elle observe, depuis sa cachette, un homme attendant sous la poterne du château. Quand la petite porte dérobée s'ouvre, c'est Cécile, un prénom bien nougaresque, n'est-ce pas? La fille de Thibaut II et de Séguine de Comminges qui s'échappe telle une hermine discrète pour retrouver son amour interdit, Charles d'Espagne. Oh, si Maïna pouvait imaginer que quelques années plus tard, en 1374, ce Charles d'Espagne irait pour sa Cécile jusqu'à prendre d'assaut le château de Montbrun et l'enlever, si elle pouvait s'imaginer que ses amants en fugue auront plus tard 2 enfants, Thibaut III et Bertrand, avant même que leur amour ne soit légitimé en 1379 par le duc d'Anjou, gouverneur du Languedoc. Mais allons, Maïna, laisse donc ces amants médiévaux en paix et lance la roue des temps. Sitôt dit, sitôt fait. Et voilà que, reprenant pied, c'est le glas de l'église qui l'appelle, pour d'autres funérailles. Cette fois-ci, Maïna ne veut rien rater du spectacle, et elle mise sur son âge pour passer inaperçue. Les baskets en moins, peut-être. Dans l'église dédiée au prophète Saint Jean-Baptiste, la foule prie pour l'âme de Bertrand de Villemur, mort en pleine guerre de religion d'une blessure d'arquebuse à la cuisse pendant le siège du Carlat, cette bastide proche aux mains des protestants. Souvenez-vous l'épisode sur Montesquieu. Nous sommes donc en 1570 et le château est désormais la propriété de la famille Villemur depuis le 15e siècle. Ses ancêtres avaient bien ravalé le château, réalisé des fresques. Bertrand de Villemur aura, pour sa mémoire, une litre funéraire, c'est-à-dire un ruban noir de 25 cm de large, encore visible aujourd'hui, peint sur les fresques tout autour des murs intérieurs de l'église. Un privilège que seul avait le seigneur, patron et haut justicier. Mais ce qui devait arriver arriva, et Maina, qui s'était tenue à l'écart sous la halle, une des plus grandes de France encore debout aujourd'hui, surprend le regard pénétrant d'une femme qui l'a remarqué. Elle prend peur et, faisant encore appel à la magie de sa pierre, s'échappe dans les âges. Cette fois-ci, c'est en l'année 1594 qu'elle atterrit pour un autre spectacle. L'installation de la plus grosse cloche de l'église, 91 cm pour 450 kg de bronze, avec gravé dessus, en dédicace, les noms de la noble Anne de Villemur, marraine, avec son fils Roger de France, grand écuyer. Et là encore, à l'origine de cet événement, la petite histoire a rencontré la grande. Imaginez donc, à la mort de Bertrand de Villemur, celui-ci avait nommé sa sœur Briette héritière universelle de tous ses biens. Mais Briette avait, comment dire, quelques penchants pour les assassinats familiaux. Mariée à Jean de Comminges, elle fit tout ce qu'elle put pour empoisonner son mari et son beau-père. Reconnue coupable, bannie du royaume et condamnée à avoir la tête tranchée place Saint-Georges à Toulouse, elle obtint cependant de rentrer finir ses jours en sa bonne vieille terre de Montbrun. À sa mort, en 1571, c'est Georges de Foix qui hérite du pactole. Ou devait hériter, car les sœurs de Briette, dont Anne de Villemur, ne l'entendent pas de cet œil. Coup de chance, Anne a des relations. Son fils, le duc Roger de Bellegarde, est justement l'ancien mignon d'Henri III, et de surcroît, un super copain d'Henri IV, lequel l'a d'ailleurs fait grand écuyer de France après que celui-ci, entre autres, lui a présenté son ex, la belle, autant que détestée, Gabrielle d'Estrées. Mais plaignons-la. Après qu'Henri IV eut mis la poule au pot, si l'on peut me passer l'expression, elle mourra tragiquement d'éclampsie en mettant au monde le quatrième enfant du roi. Revenons à Montbrun. Le 15 août 1587, Anne de Villemur obtient satisfaction du Parlement de Paris et, partant, l'entière propriété de la seigneurie de Montbrun. Yes ! Ne voulant pas gaffer, Gaston de Foix, défait, craignant l'amitié qu'a le roi pour son grand écuyer, ne conteste pas. Le tour est joué. Et c'est toute cette histoire, entendez-vous, qui résonne quand Maina entend sonner pour la première fois cette cloche d'airain. Lorsque soudain, une main saisit celle de Maina. En une fraction de seconde, Maina se retourne et reconnaît la femme qui l'avait découverte 24 ans plus tôt lors des funérailles de Bertrand. « Te voilà par le ciel, je t'ai retrouvée. Dis-moi, jeune fille, qui es-tu? Que fais-tu là ?» Maina ne répond pas. Elle ne comprend pas cette langue ancienne. Bouleversée, elle trouve cependant dans la voix de cette femme une douceur et une profondeur familière qui la rassure. Pourrait-elle l'aider, la guider pour tracer les temps jusqu'à retrouver les siens? D'instinct, Maina ouvre sa main et montre la pierre à la femme dont le regard s'éclaire. Cette pierre, ma petite, appartient à Belisama, maîtresse des arts et des forges, la déesse guérisseuse et guerrière des anciens dieux d'ici, bien avant l'installation des Romains, des Sarrasins, des Chrétiens. Parabellio, viens avec moi, il te faut la rendre à la source. Sans attendre, la femme guide Maina à travers d'étroits sentiers parmi les bois. Les deux femmes gravissent la colline. Entre les hêtres, les charmes, les chênes, les ormes, les bruyères, on les aurait crues de la même époque, de la même famille. Enfin, elle débouche sur une délicate clairière bordée d'arômes et de mousse où une chapelle enherbée les attend. En contrebas, une source claire ruisselle. La femme l'avait menée à la chapelle de Montaut. En cette année 1587, la chapelle n'avait pas l'aplomb qu'on lui connaît. Existante depuis toujours sur d'anciens lieux de culte, elle avait été reprise en 1819, puis entièrement reconstruite entre 1934 et 1942 sous l'impulsion du fameux curé Ange Albert, qui mène toujours sa dernière vie. Dédiée à la Vierge, la reconstruction avait pu se faire grâce à un appel aux dons lors du pèlerinage du 8 septembre. Imaginez la ferveur populaire, le village entier remettant en service le chemin forestier pour l'attelage des bœufs, lesquels sont chargés de bois et de pierres excavées des champs. Maina et cette femme étrange ne savaient rien de cela. Elle n'avait Dieu pour l'heure qu'au petit bassin où coulait l'eau fraîche. Nul doute que cette femme avait connaissance d'un savoir ancien. Mais n'est-ce pas dans la tradition locale après tout? Au marché, on croit parfois qu'il y a plus de marchands de cristaux que de légumes. Et déjà, en 1885, Monsieur Hadou, instituteur, écrivait dans sa monographie de Montbrun « Il est déplorable que notre laborieuse population soit fanatique au point de croire aveuglément aux sorciers et à la magie de prétendus devins. » Cependant, la femme, avec douceur, demandait à Maina de plonger la pierre dans le bassin. En lui obéissant, Maina n'imaginait pas qu'au contact de l'eau, la pierre allait se dissoudre comme une poignée de sel coloré. Olivine, malachite, aventurine, jade, chrysocolle, péridote, amazonite, quelle qu'elle fût, la pierre avait alors transmis à l'eau ses veines et ses nuances. Mais cette fois-ci, c'est elle qui tournait, dissipée dans le flot. La femme avait alors puisé de cette eau dans une timbale en cuivre qu'elle tendait à Maïna. « N'aie pas peur, dans cette eau, c'est le temps que tu reprends. » Alors Maïna but. Elle ferma les yeux, s'assit, et sous ses paupières, elle crut voir 1000 vies, 1000 âges, le cours des humanités comme autant de saisons. À son réveil, une tête de moine en bois sculpté lui souriait, avec une moue de clown. Elle était revenue au cœur du village, dans cette venelle appelée « rue des moines » parce qu'au XVIe siècle, partie du mas d'asile pendant les guerres de religion, c'est là qu'ils avaient trouvé refuge. « Maïna ? Maïna ? Eh bien chérie, on te cherchait partout. Tu rêvas ? On va y aller. Tu veux un empanadas pour la route ? Maman ? Papa ? » Dans les semaines qui suivirent, à la surprise de ses parents, Maïna ne parlait plus que de Mombrin-Bocage et voulait y revenir sans cesse. Ils ne comprenaient pas comment leur fille savait autant de choses sur le village, ses lieux, la chapelle de Monteau. Et pourtant, quelle ne fut pas la stupeur de Maïna lorsque, entre le moulin de Bouidou et le cimetière, explorant le labyrinthe de méditation bordé de sculptures, « Maïna ! Maïna, viens voir ! Tu ne trouves pas qu'il te ressemble, ce buste ? C'est dingue, non ?» C'était Histoire, Histoire, un podcast proposé et soutenu par l'Office du Tourisme et la Communauté de Communes du Volvestre, écrit et réalisé par Gabriel Tamalet en association avec la compagnie Présence Monde. Je tiens à remercier les associations locales et la commune de Mombrin-Bocage pour la mise en ligne de leurs recherches et les documents historiques, avec une attention particulière pour Madame Amiot. N'hésitez pas à adresser vos commentaires et suggestions à l'adresse contact@presence-monde.org et retrouvez l'émission et les épisodes précédents sur le site radiogalaxie31.com. À bientôt sur les chemins du Volvestre.